France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Interactive pour Adli Nazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. On va retrouver au standard Eric. Bonjour Eric.
Bonjour.
Madame Nazan vous écoute.
Voilà, les récentes condamnations de la France pour les mauvaises conditions de détention, je voulais savoir si elles ont apporté des changements positifs. Si oui, lesquels? Et dans le cas où la France est condamnée, est-ce que le détenu bénéficie de quelque chose? Je ne sais pas, est-ce qu'il est indemnisé? Est-ce qu'il a une remise de peine? Voilà, je voulais savoir, un détenu qui a subi des mauvaises conditions de détention, est-ce qu'il a une compensation?
Adli Nazan.
Alors actuellement, il peut faire un recours, mais très peu le font et il y a très peu de condamnations. Ce qui est surprenant, mais peut-être que ça va changer, je le souhaite en tout cas, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, qui a déjà condamné par exemple l'Italie pour une surpopulation équivalente à celle de la France, n'a pas encore condamné la France. Il y a plusieurs recours contre cette surpopulation carcérale de la France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça serait intéressant qu'il y ait une condamnation, non pas pour le plaisir de voir la France condamnée, évidemment, mais parce que, comme ça s'est passé en Italie, dans certains cas, la Cour européenne des droits de l'homme peut enjoindre, c'est-à-dire obliger le pays condamné à prendre toute une série de mesures. Et en Italie, il y a quelques années, justement, l'Italie a été obligée de prendre des mesures. Et ces mesures, elles ont été précisément celles que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des mesures alternatives à l'incarcération qui ont permis de faire diminuer sensiblement le nombre de détenus. Donc il va falloir qu'il y ait ce type, malheureusement, d'injonction, d'obligation, pour que la France, enfin, ait le courage de prendre ce problème à bras-le-corps.
Dominique, bonjour Dominique. Vous vous trouvez à Sainte-Zébé, c'est ça?
Sainte-Zébé, monsieur.
Sainte-Zébé, voilà. Et ça se trouve dans quel département?
Saône-et-Loire.
Très bien, je ne connais pas ma géographie. Dominique, Madame Nazan, Adli Nazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, vous écoute.
D'abord, dire le grand respect que j'ai pour cette dame, dont j'entends les propos qui m'étonnent et me rassurent. J'étais enseignant et j'ai pu me travailler au sujet des prisons. Et j'ai vu avec effarement le peu d'importance qu'accordait la République à ce nœud central de la République. Je ne comprends pas, je n'ai jamais compris pourquoi la formation des gardiens était si peu importante, et même des directeurs de prison. Et je ne dis pas ça pour les critiquer, mais je suis malheureux pour eux, j'ai honte en tant que citoyen français du travail qu'on leur oblige à faire. Tout le monde... Vous entendez mon émoi là, pas parce que je passe à la radio, mais je suis vraiment scandalisé de ce que fait la France. Les prisonniers, j'ai le plus grand respect pour eux, il faut pas qu'on les traite comme ça. Les gardiens font un travail horrible, non pas parce que le travail de gardien est horrible, ils n'ont pas de formation pour faire ce travail. Et j'ai été très étonné de voir que les directeurs étaient complètement perdus devant gérer tout ça. Alors quand on parle de problèmes psychiatriques, ben bien sûr, comment voulez-vous qu'un gardien qui n'a pas été formé, qui n'est pas respecté comme il devrait être respecté par les institutions, oui, puisse faire son travail pour que tout le monde aille mieux? La société française ne peut pas aller bien si on ne traite pas mieux les directeurs de prison, les gardiens et du coup les prisonniers. Il y a des prisonniers qui nous écoutent en ce moment. Je termine là maintenant.
Allez-y.
Il y a des prisonniers qui nous écoutent en ce moment. Je leur dis que j'ai le plus grand respect pour eux, non pas parce qu'ils ont fait, mais pour il faudrait qu'ils soient traités autrement et que les gardiens soient mieux formés.
Alors, merci Dominique. Adli Nazan, sur ce problème de la formation des gardiens de prison, il y a des insuffisances?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire cet interlocuteur. Oui, il y a une formation qui pourrait être améliorée, mais la question, à mon avis, encore plus prioritaire, c'est surtout, et monsieur le dit, c'est surtout les conditions dans lesquelles, du coup, ces surveillants sont obligés de travailler. Parce que la surpopulation, évidemment, ce sont les détenus qui en pâtissent, mais autant les surveillants. Pour vous donner une idée, à Fresnes, Fleury, etc., il y a un surveillant pour une coursive de 100 détenus, un surveillant. Et nous, nous les voyons, puisque nous faisons des missions d'une semaine ou deux semaines.
Et les surveillants disent, nous sommes en danger, en grand danger.
Bien sûr, les surveillants disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ne peuvent faire que ouvrir et fermer une porte, qu'ils n'ont même plus le temps de parler, donc il n'y a plus d'humain avec ces détenus, qu'ils ne peuvent pas effectuer leur mission de façon satisfaisante. En conséquence de quoi, il y a des maladies, des burn-out, des absentéismes qui réduisent encore un peu plus la présence des surveillants. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans le même temps où il y a 30 000 détenus de plus qu'il y a 25 ans, les effectifs de surveillants, eux, ils ont diminué. Mmh. Donc c'est là qu'on est vraiment dans une situation qui est incompréhensible.
Mais vous dites que la formation des surveillants, des gardiens pourrait être améliorée. Dans quel domaine ?
Elle pourrait être améliorée parce qu'elle pourrait, par exemple, durer plus longtemps. Il pourrait y avoir une formation continue, véritable, qui se passe tout au long de la carrière. Et puis, il faudrait, nous le proposons depuis plusieurs années, qu'il y ait une forme de supervision. C'est-à-dire que ces surveillants qui sont confrontés, justement, à des conditions de détention terribles, des conditions de travail terribles, des prisons complètement dégradées, ils puissent en parler ensemble, qu'ils puissent voir des psychologues, qu'ils puissent voir des intervenants dans le monde du travail, comme ça se fait par exemple dans les entreprises, pour pouvoir lâcher un petit peu de stress. Or ça, malheureusement, ça existe très très peu, quasiment pas.
Et quand on voit des détenus qui tournent un clip de rap dans une prison à Eton en Savoie et le diffusent sur les réseaux sociaux, un drone qui se pose hier, je crois, dans une cour de prison à Valence, un drone qui transportait un colis que les détenus ont récupéré, tout ça nous montre bien une insuffisance de la surveillance.
Ça montre que, justement, les conséquences de la surpopulation, elles vont jusque-là, que les surveillants ne peuvent pas maîtriser ça parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Cette surpopulation, elle a des conséquences absolument énormes. La conséquence d'ailleurs la plus grave, en dehors du fait que c'est indigne de les faire vivre dans des cellules comme cela, mais la conséquence extrêmement grave également, c'est que du coup, la réinsertion, qui est quand même le but de ce passage en détention, la réinsertion, elle ne peut plus se faire. C'est-à-dire que ce passage en détention, il ne pourra malheureusement pas servir, alors que la loi demande que ça serve à ça, il ne pourra malheureusement pas servir à ce que le détenu puisse avoir des activités, avoir une formation, puisse sortir en fait de l'incarcération en étant mieux et en étant plus inséré que quand il y est rentré. C'est exactement l'inverse qui se passe.
Laurent à Metz, bonjour Laurent.
Vous retrouvez le matin.
Il y a un peu d'écho sur la ligne. Vous m'entendez, Laurent ?
Tout à fait, j'ai pas de problème.
Bon, voilà. Vous êtes sur l'antenne, Madame Azan vous écoute.
Bien, est-ce que le problème du code pénal n'est pas que, en fait, certains avocats qui sont spécialistes du pénal et peut-être de ce genre de situation veulent protéger leur business et ne pas. Je veux pas dire que par certaines mesures, le code pénal, c'est un petit peu. Ça relève de la vengeance publique. Sans chercher à comprendre, petite faute, petite amende, petite peine de prison, comme si c'était devenu pratiquement la norme, la privation de liberté. Alors qu'il y a des gens, comme vous avez dit, pour une infraction de la route ou des délais financiers qui ne relèvent pas, comment dire, d'un danger pour la société, je dirais dans une valeur absolue. En préventive, c'est vrai que ces gens n'ont rien à y faire. Mais est-ce que c'est aussi parce que le milieu judiciaire ne tient pas du tout compte de l'avancée des connaissances en psychologie et en psychiatrie ? C'est quand même pas normal que, je ne sais pas de quand date le code pénal, est-ce que ça date de Napoléon ou alors de Mathusalem, mais est-ce que c'est pas un petit peu dépassé tout ça ?
Alors, les avocats, non, je vois pas la responsabilité des avocats dans cette thématique.
Mais vous dites que les magistrats, les juges...
Voilà, absolument. Voilà. En revanche, les magistrats, à mon sens, n'ont pas suffisamment le réflexe de prononcer des peines alternatives à la prison et ont trop, à l'inverse, cette culture de la prison. Pourtant, il y a une loi importante...
Mais d'où vient cette culture prison ?
En 2014, la loi Taubira, qui a justement donné la priorité à d'autres mesures que l'incarcération, la contrainte pénale, la libération sous contrainte, et malheureusement, les magistrats ne s'en sont pas emparés. parce que c'est finalement c'est presque plus facile de d'incarcérer que de monter un projet avec des éducateurs, parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs non plus à monter un projet avec le détenu de façon à ce qu'il puisse effectuer un sursis mis à l'épreuve, une contrainte pénale. C'est plus compliqué, mais c'est quand même assez dramatique de voir que les magistrats ont encore beaucoup trop ce réflexe de dire 2-3 mois de prison, 6 mois de prison, plutôt que de mettre en place une mesure qui permettra à la personne de se réinsérer, en tout cas de tenter de le faire, et qui permettra aussi à la société d'en tirer des bénéfices. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a à peu près 80% des peines qui se terminent par ce qu'on appelle une sortie sèche, c'est-à-dire sans préparation. Eh bien, plus la sortie est sèche, plus il y a de risques de récidive. Donc c'est la société aussi qui va en pâtir, sans compter le prix, bien sûr, d'une journée de prison. Il faut savoir quand même que ça coûte aux environs de 100 euros la journée, alors que l'exercice d'une peine hors de la prison coûte beaucoup moins cher. Donc tout le monde aurait à y gagner. Simplement, je le disais tout à l'heure, c'est une espèce de révolution des esprits.
Souvent, on dit Adeline Hazan, c'est le contrôleur général des prisons. C'est faux, vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. Alors à ce propos, où en est votre action en ce qui concerne le traitement de certains malades en psychiatrie? Là, on ne parle pas de prison, hein, en psychiatrie, où on a dénoncé des cas de contention et d'isolement forcé.
Alors, on a dénoncé justement, il y a presque 2 ans maintenant, le fait qu'en France, jusqu'à une période très récente, on pouvait, dans les hôpitaux psychiatriques, quand quelqu'un est placé sans son consentement, c'est l'ex-hospitalisation d'office, il pouvait être en chambre d'isolement et contenu, c'est-à-dire attaché physiquement par les bras, par les pieds, éventuellement par une ceinture abdominale, pendant des durées très longues, sans qu'il y ait un véritable contrôle médical et sans finalement aucun contrôle. Nous l'avons découvert dans un établissement à Bourg-en-Bresse et nous l'avons dénoncé de façon très virulente.
Et ça a changé ?
Oui, ça a changé. Il y a depuis une loi qui a été promulguée le 26 janvier 2016 qui instaure un contrôle extrêmement précis justement de ces mesures de contention et d'isolement, qui ordonne que ce soit le dernier recours, que ce ne soit fait que par un médecin et pas par un infirmier, que ce soit valable que 24 heures, éventuellement prolongeable, mais en tout cas que 24 heures, et qu'il y ait tout ce contrôle qui n'existait pas. Mais il faut quand même se dire que jusqu'à cette loi et jusqu'à aussi le fait que nous le dénoncions, eh bien, on attachait des malades dans les hôpitaux psychiatriques sans qu'il y ait le moindre contrôle. C'est-à-dire que, par exemple, à Bourg-en-Bresse, on a découvert des malades qui étaient attachés depuis un an et demi, sans que l'agence de santé, sans que le conseil général de l'époque n'ait effectué ce contrôle-là.
Adeline Hazan, avez-vous l'intention de mener des inspections dans les EHPAD, je rappelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, où, on le sait, faute de personnel suffisant, des personnes âgées voient leur liberté entravée ou mise à mal?
Alors, la loi ne nous donne pas cette compétence actuellement, puisque nous sommes compétents pour toute privation de liberté ordonnée par l'autorité publique, c'est-à-dire quelqu'un qui est en garde à vue, un étranger qui est dans un centre de rétention, un mineur qui est en prison, les détenus évidemment, et les personnes placées en hôpital psychiatrique sans leur consentement. En ce qui concerne les EHPAD, la personne y entre soit de son plein gré, soit par la famille, mais en tout cas, ça n'est pas l'autorité publique. Donc d'abord, il faudrait une modification législative pour nous donner cette compétence. Pour ma part, je n'y suis pas favorable. Je pense qu'il faut qu'il y ait une nouvelle instance qui contrôle ces EHPAD, parce qu'il y a de la maltraitance, on le sait. Je ne suis pas absolument convaincue que ce soit de la compétence du contrôle général des lieux de privation de liberté, qui a déjà beaucoup, beaucoup à faire pour ces privations de liberté ordonnées par l'autorité publique. Mais je suis tout à fait pour qu'il y ait une instance qui contrôle ces maisons de retraite.
Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, pas de découragement chez vous?
Aucun.
Malgré le fait que vous publiez des rapports régulièrement et que les choses ne changent pas suffisamment vite?
Alors, elles ne changent pas suffisamment vite, mais elles changent quand même sur des petites choses ou sur des grandes choses, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que dès lors que nous faisons une visite, et je rappelle que nous en faisons 150 par an, eh bien, il se passe quelque chose pendant la visite et il y a des éléments qui, parfois concrets, qui peuvent être modifié. Et puis vous savez, quand on est une instance qui n'a pas de pouvoir d'injonction, mais un pouvoir de proposition, de dénonciation, il faut surtout pas baisser les bras. Il faut continuer à dénoncer, continuer à proposer et le faire toujours plus avec les avancées que cela permet.
Adeline Nazan, invitée de la rédaction de France Inter ce matin. Merci beaucoup.
Merci à vous.